Bonjour à vous et bienvenue dans le 169e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Bulleur vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album La Neige était sale, adaptation en bande dessinée d'un roman de Georges Simenon par le duo Jean-Luc Fromental au scénario, Bernard Isler au dessin et c'est édité chez Dargo. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Le Lierre et l'Araignée, superbe album de Grégoire Carle, que publient les éditions Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre. Je parlerai ensuite de l'album Le Dictateur et le Dragon de Mousse, album singulier que l'on doit au scénario de Fabien Tillon, au dessin de Freeway, et c'est édité chez La Boîte à Bulles. J'aborderai aussi la sortie de L'étudiante anglaise, premier tome sur 2 de Zoé Carrington, le nouveau diptyque du talentueux Jim, sorti chez Grand Angle. Ensuite, je vous parlerai de l'album Viviane Mayer, Clair Obscur, que l'on doit au scénario de Marzena Sowa, au dessin d'Émilie Plateau et que publient les éditions Dargo. Je vous présenterai aussi Audrey Hepburn, un ange aux yeux de Fan, qui prend place dans la collection 9,5 des éditions Glénat, et que l'on doit au duo Jean-Luc Cornette au scénario et Agnès et Innocente au dessin. Enfin, je terminerai par la réédition en intégrale de Fleurs de Nuit, très bel album que l'on doit à un duo d'auteurs italiens, Giovanna Furio au scénario, Marco Nizzoli au dessin, et c'est édité chez Glénat. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Avec La Neige était sale, c'est déjà le second album de la collection des romans durs de Georges Simenon qui arrive en librairie, sans compter les 3 cahiers et l'album L'Ostrogo que l'on doit au trio Fromental, Bocquet et Loustal. Voilà donc un projet plus que séduisant auquel s'est attaqué la maison d'édition Dargo, adapter les romans dits durs parce qu'ils furent durs à écrire et abordent des thématiques difficiles de l'auteur belge Georges Simenon que je connaissais surtout pour sa série des Maigrets. Nul doute que comme pour moi, cette série aura pour effet de porter un joli coup de projecteur sur ses romans et donnera à de nouveaux lecteurs l'envie de s'y plonger, tant ce que l'on découvre en bande dessinée est déjà en soi très séduisant. Bon, il faut dire aussi que pour ses adaptations, Dargo a misé sur de grands noms de la bande dessinée européenne, ainsi pour La Neige était sale, c'est Jean-Luc Fromental qui en signe le scénario et Bernard Isler le dessin, difficile de trouver un plus bel équipage. J'avoue que pour ce qui me concerne, il suffit que j'entende le nom d'Isler pour me précipiter sur un ouvrage, c'est le type même d'auteur vers lequel je me tourne les yeux fermés, ou plutôt les yeux grands ouverts pour profiter encore et encore de son superbe dessin. Avec La Neige était sale, on n'est certainement pas déçu, la superbe couverture très cinématographique attire le regard avec une patine qui tire sur le noir et blanc que vient relever le rouge framboise du vêtement des deux personnages, une couverture de toute beauté. Dans un dessin en plongée qui écrase Franck et Sissi, comme pour mieux symboliser cette vie qui va leur jouer un sale tour chacun à leur façon, nous entrons de plein pied dans cette histoire que l'on pourrait qualifier de camusienne. Franck est le personnage principal de ce récit, jeune, beau, flambeur et séducteur, c'est surtout un voyou qui prend de plus en plus d'envergure à une période où il pense pouvoir jouir d'une certaine impunité. En effet, la violence est partout autour de lui, dans une ville que l'on ne peut pas clairement identifier, une armée d'occupation, qui pourrait être l'armée allemande ou une autre, s'est installée et fait régner la loi. Franck n'en a que faire de cette occupation, ce qu'il préoccupe au quotidien, c'est l'argent qu'il peut gagner de façon malhonnête, les filles avec qui il va pouvoir coucher, et son voisin du dessous, un certain monsieur Horst et sa fille Sissi. Franck vit d'ailleurs chez sa mère, et des filles, il y en a à la maison. Franck n'a qu'à se servir, sa mère tient en effet une maison de passe où travaillent deux habitués, Mina et Annie, avec lesquelles Franck couche à l'occasion. Sissi, c'est autre chose. Elle est jeune, vierge, innocente, mais surtout follement amoureuse de Franck, qui incarne dans ses yeux la liberté, la séduction, mais aussi une certaine forme de danger. Au moment où elle s'amourache du beau blond ténébreux, elle ne sait pas que par désœuvrement, il a tué un officier que tout le monde surnommait l'eunuque, tout comme elle ne sait pas plus qu'il fréquente des personnalités malsaines comme Cromer, des personnalités tordues que l'on prend le temps de découvrir ici. Cette vie, ce milieu interlope, cette innocence qui pointe dans ce monde violent, on le suit au plus près grâce au dessin de Bernard Isler qui resserre le cadre, joue sur les tonalités et entraîne le lecteur dans un vertige qui ne s'arrêtera qu'avec la chute de Franck. Son trait se fait toujours aussi précis, l'auteur de Sambre alterne le noir et blanc, le sépia ou des teintes roses en fonction des circonstances et des personnages, prouvant par là même que la couleur est en soi un code narratif qui en dit aussi long que le dessin lui-même. De son côté, Jean-Luc Fromental a su resserrer le récit de Simenon, qui fait près de 300 pages à l'origine, pour en garder la substantifique moelle et offrir un album nerveux, mais qui sait prendre son temps à l'occasion pour installer les ambiances. Les personnages apparaissent comme des prisonniers de leurs conditions, dans un monde prisonnier lui aussi de cette armée d'occupation qui offre une toile de fond étouffante dans un récit que Simenon qualifiait volontiers comme l'un de ses plus importants. Vous aurez compris que La neige était sale est une véritable réussite, l'album est sorti le 26 janvier dernier chez Dargo, l'histoire tient en 104 pages, et si vous aimez les albums intenses et passionnants de bout en bout, alors ce titre est fait pour vous. Deuxième partie de ce podcast, dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties par un titre fort, le genre de lecture qui marque et que l'on gardera assurément un petit moment en tête, Le lierre et l'araignée du strasbourgeois Grégoire Carl. Si je précise le lieu d'où est originaire cet artiste talentueux et toujours surprenant, c'est parce que c'est dans sa région et sa ville de naissance qu'il nous entraîne pour revenir sur l'un des épisodes forts et douloureux de la Seconde Guerre mondiale. En attendant, c'est par une scène champêtre et bucolique qu'il ouvre son album, celle d'un enfant parti à la pêche avec son grand-père, un grand-père taiseux, mais dont on va découvrir l'histoire tout au long des 200 pages de cet ouvrage. Le calme de la nature laisse alors place au chaos de la drôle de guerre d'abord, puis de l'invasion des Allemands en Alsace ensuite, une armée du Reich qui prétend récupérer son territoire après l'affront qu'elle dit avoir subi avec le traité de Versailles. Une grande partie des Alsaciens ont alors quitté leur région et c'est petit à petit qu'ils vont revenir dans un endroit où le drapeau avec la croix gammée, l'araignée comme on l'appelle, s'est substitué au drapeau bleu, blanc et rouge. S'il faut bien reprendre le cours de son existence, le travail à l'usine, on va se familiariser avec un petit groupe de jeunes gens qui se retrouvent pour aller à la pêche après le travail et qui va tomber sur tout un arsenal laissé par les Français durant leur fuite. Détestant la présence allemande, du haut de leurs 16-17 ans, ils vont apprendre à manier les grenades et les armes et vont créer un groupe de résistance baptisé la Feuille de Lierre, un groupe qui se verra bientôt renforcé par un second, la Main Noire. C'est cette histoire réelle que Grégoire Carl a décidé de mettre en dessin, celle de ces jeunes gens qui n'ont pas capitulé devant l'ennemi et qui ont décidé de tenir tête au Reich au péril de leur vie. Certains en paieront d'ailleurs le prix fort, ce sera le cas de Marcel Venoum ou encore Czeslaw Sieradzki, auquel l'album rend hommage en passant, de jeunes hommes qui ont mis leur insouciance entre parenthèses pour résister à l'envahisseur. D'ailleurs, en tant que lecteur, bien que la période soit éloignée dans le temps, on est au plus proche de ces hommes dont l'action se radicalise de jour en jour et inquiète de plus en plus le commandement nazi de la région. Les planches de Grégoire Carle sont de toute beauté, il y mélange les aquarelles et l'encre de Chine en couleur directe pour sublimer cette nature que l'homme abîme, tout comme il nous montre la cruauté de la guerre. Pour lui, préserver l'homme et préserver la nature ne sont que les deux faces d'une même pièce, et avec beaucoup d'astuces et d'intelligence, il sait allier tout cela dans un album dont le titre « Le lierre et l'araignée » combine le végétal et l'animal. C'est dans la prestigieuse collection Air Libre des éditions Dupuis qu'est arrivée en librairie le 26 janvier dernier cette bande dessinée, un titre qui, comme vous l'avez compris, ne m'a pas laissé indifférent du tout. C'est une histoire bien singulière que l'on retrouve dans Le Dictateur et le Dragon de Mousse, titre du coup de cœur suivant, une histoire qui ne redore certainement pas le blason de la Corée du Nord, qui n'est déjà pas très brillant. Dans cette histoire, nous allons suivre un comédien et réalisateur coréen du Sud, un certain Shin Sang-ok, en rupture avec son pays et venu s'installer à Hong Kong où il enchaîne les tournages. Si Shin multiplie les projets, c'est peut-être aussi pour oublier la disparition de son ex-femme, Choi Eun-hee, qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces, chose qui interroge au plus haut point. Voilà le point de départ de cet album passionnant qui nous fait plonger dans une histoire hallucinante et captivante, d'autant plus qu'elle prend appui sur une mésaventure véritablement arrivée à son principal protagoniste ainsi qu'à sa femme. Après avoir suivi au plus près notre héros, d'un plateau de tournage à l'autre, en compagnie de son homme à tout faire, Ringo, on va le voir à son tour se faire enlever par celui qui est derrière tout cela, le régime nord-coréen, représenté ici par le dictateur Kim Jong-il. S'il est bien entendu compliqué de savoir combien de personnes le régime a fait kidnapper depuis sa création, il faut savoir que c'est une véritable spécialité locale, même si le kidnapping qui nous intéresse ici n'est pas réalisé au hasard. En grand amateur de cinéma qu'il est, il a une cinémathèque impressionnante, Kim Jong-il est bien conscient de l'indigence du cinéma dans son pays et voit dans le couple que forment Shin et Choi une opportunité pour le faire évoluer en qualité et lui donner un certain lustre. Si Shin refuse d'abord de servir la cause nord-coréenne, vous le savez comme moi, le régime sait alors se montrer très persuasif par des méthodes que l'on découvre au fil des pages dans un album rendu passionnant par le scénario de Fabien Tillon. Mélangeant habilement la réalité d'une situation avec la fiction, il offre une histoire au lecteur qui permettra au passage d'en savoir un peu plus sur le cinéma asiatique et ses grands genres. Finissant par jouer le jeu du régime, le couple n'a plus alors qu'un objectif, réussir à s'enfuir, mais depuis un pays connu dans le monde entier pour son côté hermétique et pour ses mesures de rétorsion sans pitié. Le dessin expressif de Freeway offre une plongée des plus convaincantes dans cette partie de l'Asie, sans trop en faire sur le côté exotique, permettant aussi aux couleurs de jouer un rôle ici pour souligner la violence ou encore là pour accentuer l'idée d'enfermement et d'embrigadement. Son dessin est simple, mais soigné, il offre un écrin de choix pour cette histoire que l'on trouve de plus en plus hallucinante au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans cette bande dessinée qui fait 144 pages. Complété en fin d'album par un dossier sur le cinéma asiatique et une interview de Julien Cévéon, nous avons au final un objet passionnant sorti le 7 février dernier chez la boîte à bulles que je recommande plus que chaudement. Je vous propose maintenant de changer totalement d'univers et de faire la rencontre de Zoe Carrington, nom de l'héroïne de Jim, l'auteur d'Une nuit à Rome, autre album de ce qu'il a baptisé sa trilogie des ex, comme autant d'histoires d'amour qui appartiennent au passé. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Jim, c'est cette façon de savoir raconter des histoires qui ont pour objet principal les sentiments, une palette qu'il déploie depuis des années dans des albums qui ont connu un véritable succès auprès du grand public. Il faut dire que ces histoires sont souvent portées par deux splendides jeunes femmes, et Zoe Carrington ne déroge pas à la règle. Cette superbe brune au tempérament de feu, qui vit pour l'instant présent, va non seulement marquer la vie de Simon, héros de cette histoire, mais aussi celle des lecteurs et des lectrices qui vont se plonger dans ce titre. Zoé, on apprend à la découvrir par petites touches dans un premier tome sur deux qui revient sur le passé et qui raconte cette rencontre entre la jeune femme et trois étudiants tout droit arrivés de France, Simon donc, Rothenberg et JP. Les trois se rêvaient en as de la finance, mais les trois rêvaient surtout d'avoir la belle Zoé à leurs bras, et si chacun a connu sa petite aventure avec la jeune Anglaise, c'est finalement un jeune homme de bonne famille, blond et irrésistible, un certain Léo, qu'elle a fini par choisir et épouser. D'ailleurs, c'est pour célébrer les 30 ans de Léo que Zoé Carrington a recontacté les trois Français, c'est qu'ils se préparent à Londres une fête géante qui va permettre de fêter cet événement en grande pompe, événement qui permettra de renouer avec Zoé. Simon, qui avait passé une semaine intense du temps de ses années d'étudiant, n'a jamais oublié le visage, ni même le corps, de celle qui l'a fait vibrer et qui a gravé à tout jamais en lui le souvenir d'une fille merveilleuse avec qui il aurait aimé passer sa vie. Bien entendu, Jim, qui sait bâtir des scénarios, prépare bien des rebondissements à son lecteur, avec une surprise que l'on voit arriver en fin d'album et qui donne déjà envie d'avoir la suite entre les mains. Alors qu'il sort en parallèle son premier film, il nous offre ici une histoire qui a maturé pendant des années, un titre très plaisant à parcourir, ne serait-ce que pour la beauté de son héroïne, sublimée par son superbe coup de crayon. Accompagné de Rémi Torregrossa pour les décors et Delphine pour les couleurs, il nous offre un album rythmé, se passant en grande partie à Londres, un titre où le moindre petit instant sait être sublimé par la qualité de son dessin. Cette Zoé Carrington est marquante et c'est bien là le principal, et si le scénario se rapproche d'une nuit à Rome, c'est aussi parce que ce projet lui est antérieur et qu'il a infusé dans ses albums suivants. L'étudiante anglaise, titre du premier tome sur deux de Zoé Carrington, est disponible depuis le 31 janvier dernier aux éditions Grand Angle, et une fois encore, j'ai adoré me laisser séduire par ce personnage et par cette nouvelle aventure signée Jim. Personnalité discrète, qui n'aimait pas que l'on s'intéresse à elle, mais qui était curieuse de tout ce qui l'entoure, c'est maintenant de Viviane Mayer dont il va être question dans un très bel album qui nous fait suivre ce destin si singulier. Viviane Mayer fut certainement l'une des photographes les plus douées du siècle dernier, mais une photographe dont l'œuvre et le talent ne fut découvert qu'après sa mort, par le plus grand des hasards, puisqu'une bonne partie de son œuvre n'avait pas été développée de son vivant. Si cette histoire est déjà en elle-même complètement folle, ce n'est pas tant ici le propos que de nous montrer qui fut cette femme discrète et libre que l'on pouvait croiser avec son appareil photo Rolleiflex en bandoulière, un appareil qu'elle ne quittait jamais. Dans des pages aux teintes sépia, l'album s'intéresse à l'enfance de Viviane, une enfance marquée par l'absence d'un père qu'elle ne connaît pas vraiment et par une jeunesse qu'elle passe entre New York, sa ville de naissance, et la France d'où est originaire sa mère. De cette jeunesse, elle en conservera une envie de mouvement permanent. Viviane Mayer est constamment en train d'avancer, que ce soit pour faire le tour du monde ou arpenter les rues de Chicago où elle vit et où elle photographie au quotidien tout ce qui s'y passe. Viviane Mayer est une véritable autodidacte de la photographie. Dans la pièce qu'elle occupe, on la voit expérimenter au moment de développer ses pellicules, tout comme on la voit avoir un véritable sens du cadre quand elle prend ses sujets en photo. Les enfants qu'elle garde, car elle passera une bonne partie de sa vie à être nounou au service de plusieurs familles, jusqu'aux ombres portées sur le sable ou les murs, tout est sujet à photographie pour une Viviane Mayer qui a à cœur de fixer sur sa pellicule des petits instants de vie qui sont tellement signifiants pour elle. C'est la scénariste Marzena Sowa qui nous propose cette découverte de la vie de Viviane Mayer. On découvre la femme derrière la photographe, une femme engagée, qui aura marqué par son humanité et sa gentillesse toutes celles et ceux qui l'auront côtoyée. Côté dessin, c'est Émilie Plateau qui retranscrit, dans ce style si identifiable chez elle, cette déambulation que l'on fait avec la photographe sur les 136 pages de ce très bel album sorti le 26 janvier dernier. Dans un format identique à l'album noir, consacré à Claudette Colvin, on retrouve ce trait presque enfantin qui contraste parfois avec l'existence de leur personnage, un trait qui apporte de l'originalité à l'œuvre, mais qui peut aussi être rédhibitoire chez certains lecteurs. Pour ma part, j'aime beaucoup ce format, à rien naïf, et c'est avec grand plaisir que j'ai découvert Viviane Mayer ici, un album sous-titré clair-obscur que publient les éditions d'Argo et que je recommande chaudement là aussi. C'est à une autre personnalité féminine que s'intéresse notre coup de cœur suivant, une actrice mondialement célèbre qui vient prendre place dans la fameuse collection 9,5 des éditions Glénat, je veux parler d'Audrey Hepburn. celle que la bande dessinée surnomme l'ange aux yeux de Fan, en raison de ses grands yeux qu'elle n'a pas hésité à ouvrir sur la misère du monde, se raconte ici en 168 pages d'un album que la couverture donne très envie de parcourir. Ce regard qui mélange l'innocence et la séduction est une très belle invitation à découvrir l'existence de celle qui est née en 1929 à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles, mais qui sera naturalisée anglaise par un père qui la déclare née à Londres. Le père va d'ailleurs être la première douleur de la future actrice, ce père qui affiche ses sympathies nazies dans un monde qui bascule doucement vers la guerre et que va subir celle qui est née Eda, et qui, dès son arrivée aux Pays-Bas, prendra le prénom d'Audrey. De la guerre, elle en retient les privations et la peur de terminer entre les mains des soldats SS, une privation qui lui donnera une conscience aiguë de la misère que vivent les enfants dans le monde, et en fera une grande ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF dans la dernière partie de sa vie. Tout cela, le scénario de Jean-Luc Cornette nous le fait découvrir après avoir brossé la carrière professionnelle cinématographique d'une comédienne qui a commencé par faire de la danse et qui viendra au cinéma par le biais de petites figurations. Mais très rapidement, sa beauté, sa taille svelte et son sens de la comédie la feront remarquer et lui permettront de tourner avec les meilleurs, remportant au passage plusieurs Oscars et une réputation qui en font une actrice très convoitée. Si l'on regrette toujours avec cette collection de passer rapidement sur certains moments de sa vie que l'on aimerait voir creuser, se dessinent ici les contours d'une personnalité fragile mais volontaire qui adorait au moins autant les animaux que les humains. La douceur du personnage est soulignée ici par le trait tout aussi doux et parfois presque naïf d'Agnès et Innocente qui donne beaucoup de caractère à cet ouvrage et qui offre au final une lecture des plus agréables à faire. D'Hollywood en passant par Londres ou la Suisse avec sa propriété de Tolochenaz où elle s'éteindra à l'âge de 63 ans, on suit, grâce à un dessin fluide et simple à comprendre, ce destin singulier que l'on prend plaisir à découvrir ici. Fan de l'actrice ou simple curieux ayant de l'intérêt pour le cinéma, on prend un véritable plaisir à se plonger dans ce titre sorti le 24 janvier dernier, un album passionnant que je recommande vivement. Comme toutes les deux semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, un titre qui, comme pour le précédent, est sorti aux éditions Glénat et reprend en un seul album les deux tomes publiés à l'origine en 2021. L'ouvrage s'appelle Fleurs de nuit et il nous vient d'un duo d'auteurs italiens, Giovanna Furio pour la partie scénario et Marco Nizzoli pour le dessin. C'est d'ailleurs en Italie, du côté de Venise, que nous entraîne ce récit qui mélange à la fois la petite histoire, celle d'un trio composé d'un frère, d'une sœur et d'un ami, et la grande histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Esther et Jacopo sont jumeaux, et en cet été 1933, ils passent de bons moments en compagnie d'Hans, avec qui ils sont inséparables, représentant ainsi de fait cette amitié naissante entre l'Allemagne et l'Italie, lien qui aura un impact pour le trio comme pour les deux pays. C'est que derrière les sourires affichés sur la photo et la légèreté de la situation se cachent en réalité des périls qui vont peu à peu monter à cette période du XXe siècle, des périls que l'on devine déjà et que l'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture. Mais en attendant, notre trio profite du soleil vénitien et un rapprochement s'opère entre Jacopo et Hans, dont la relation, connue d'Esther, doit rester secrète en raison de son aspect jugé scandaleux à l'époque. Mais voilà, les tourments de l'histoire vont rattraper les amours de jeunesse, surtout quand les parents s'en mêlent, et bientôt Hans doit regagner l'Allemagne pour qu'il devienne un soldat efficace du Troisième Reich. Jacopo et Esther, juifs tous les deux, vont de leur côté subir les décisions de l'État fasciste italien que l'Allemagne nazie dans les années 40 va venir contrôler, une période où les deux vont retrouver Hans qui a forcément changé sous les ordres d'Hitler. Avec beaucoup de justesse et d'intelligence, Giovanna Furio réussit à mélanger de nombreuses thématiques dans une période pour le moins troublée, réussissant par là même à rendre attachant ces personnages qui doivent lutter contre les tourments de leur époque. Abordant des thématiques comme l'antisémitisme, l'homosexualité, la filiation ainsi que l'amour et l'amitié, elle offre une histoire passionnante au crayon d'un Marco Nizzoli qui la met parfaitement en image. Avec un style gracieux que la mise en couleur sait mettre en avant, il nous offre cette plongée où l'intime et l'universel se mélangent, où les corps nus des deux jeunes hommes répondent au massacre perpétré par l'armée allemande. Cette mise en couleur alterne d'ailleurs entre le sombre et le lumineux, un jeu de contraste qui reprend tout le propos de cette histoire, où se mélangent la beauté et la laideur d'un siècle tourmenté qui prend vie sous nos yeux dans toute sa complexité. Revenu en librairie le 17 janvier dernier, dans un album unique qui fait 112 pages, j'ai été ravi de découvrir ce Fleur de Nuit à côté duquel j'étais passé au moment de sa première sortie en librairie, il y a 3 ans maintenant. Ainsi se termine ce 169e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album La Neige était sale, adaptation d'une œuvre de Georges Simenon par le duo Jean-Luc Fromental au scénario, Bernard Isler au dessin et qui est publié chez Dargaud. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebulleur.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 26 février, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.